Bonsoir et bienvenue dans Le Grain à Moudre d'été. Sujet du jour, Cuba prend-il un virage libéral ? C'est hier qu'a commencé le grand débat sur la nouvelle constitution à Cuba. Hier, un jour particulier, c'est le jour anniversaire de Fidel Castro. 13 août, il aurait eu 92 ans. Difficile de se défaire de son influence 2 ans après sa mort, même quand il s'agit de réformer le pays. Voilà donc lancé un vaste débat public sur l'île. 3 mois de discussion jusqu'au 15 novembre. 130 000 points de rencontre disséminés dans le pays pour permettre aux 11 millions de Cubains de prendre connaissance du projet de nouvelle constitution. Tout cela avant un référendum en février prochain, en 2019, 60e anniversaire de la révolution cubaine. Un nouveau texte, donc, qui propose de nombreux changements par rapport à la constitution actuelle, adoptée en 1976. Des changements qui pourraient préparer de nouvelles réformes économiques, voire politiques. Quelques exemples de ces nouveautés, disparition de la référence à une société communiste et reconnaissance du rôle de la propriété privée et des marchés dans l'économie cubaine. D'où cette question ce soir, Cuba prend-il un virage libéral. Pour répondre à cette question, 3 invités. Jeannette Abel, politologue, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris 3. Vous êtes aussi membre du Centre de recherche sur l'Amérique latine et les Caraïbes à l'Université d'Aix-Marseille et vous êtes en duplex de France Bleu Pays Basque à Bayonne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À votre côté à Bayonne, Olivier Dabenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Paris et membre du Centre de recherche international, le CERI. Vous avez fondé et vous présidez l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. En studio, à la Maison de la Radio, Jérôme Leleu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales et votre thèse porte sur la planification à Cuba. Pour commencer, arrêtons-nous sur l'état économique de l'île pour bien comprendre la situation actuelle de Cuba. État économique avant de parler de la politique. Jeannette Abel, quelle est la situation économique de Cuba aujourd'hui ?
Situation très difficile. 1%, 1,1% de croissance cette année, alors que l'on considère généralement qu'il en faudrait 5 à 6 pour que la situation s'améliore, pour que le niveau de vie des Cubains soit plus supportable. Et actuellement, les difficultés de la vie quotidienne sont très importantes et il est de notoriété publique reconnu que le salaire que touchent les salariés cubains dans le secteur public est insuffisant pour vivre, insuffisant pour couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, justement. Donc, dans le secteur privé, par contre, qui est devenu beaucoup plus important, puisque aujourd'hui, 30% de la population active et salariés dans le privé, les salaires, les revenus sont beaucoup plus importants que dans le public, ce qui provoque beaucoup de déséquilibre sur le plan social.
On va parler de tout ça, du secteur privé, du secteur public et de ces déséquilibres. D'autres informations, Jérôme Leleu, sur la situation économique de Cuba. 1,1% de croissance cette année, dit Jeannette Abel. C'est un pays aussi qui est très dépendant des importations et des alliances qu'il a pu conclure et nouer dans les années passées, notamment avec le Venezuela.
Oui, effectivement, si on regarde la croissance sur un temps un peu plus long, la croissance moyenne entre 2009 et 2016 est de la croissance annuelle moyenne de 2,6%. Donc effectivement, comme l'a dit Jeannette Abel, il faudrait pour un pays en développement comme Cuba un taux de croissance de 5 à 6%. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les réformes économiques qui ont été mises en œuvre depuis 2008 n'ont pas eu les résultats escomptés en termes de développement économique. Et effectivement, la situation de l'économie cubaine depuis 2016 et donc à la suite de la crise économique et politique vénézuélienne s'est encore détériorée. Le taux de croissance en 2015 était de 4,3%. Il a été de 0,5% en 2016 et 1,1% cette année. Donc c'est pour le premier semestre. Donc effectivement... la dépendance extérieure cubaine a une influence très importante sur le développement économique de Cuba, mais également sur les politiques économiques qui sont appliquées.
Olivier Dabenne, autre point important pour expliquer la situation économique difficile de Cuba, c'est l'embargo américain, ses relations avec le voisin américain. Embargo qui a été assoupli par Barack Obama il y a quelques années et qui a été resserré par Donald Trump.
Oui, effectivement, ça ajoute aux difficultés cubaines de ces dernières années. J'ajouterais ce qu'ont dit mes collègues, que si on prend une perspective encore un peu plus longue, depuis les années 80, Cuba n'a toujours pas récupéré son niveau de rémunération, niveau de salaire, c'est-à-dire les gens vivent moins bien aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années, donc c'est évidemment un échec pour ce régime politique, et la contrainte extérieure est évidemment une explication qui est très importante. Bon, je pense que les Cubains ne peuvent que prier pour que Donald Trump ne fasse pas un deuxième mandat, parce qu'en l'état actuel, il n'y a évidemment aucune amélioration possible des relations économiques avec les États-Unis.
Et puis, Jeannette Abel, il y a aussi une situation un peu particulière, c'est que Cuba est le seul État au monde à avoir deux monnaies, l'une pour le secteur public, l'autre pour le secteur privé, et puis pour les touristes qui viennent sur l'île.
Tout à fait, il y a deux monnaies. Alors c'est un système très compliqué. L'ancien ambassadeur britannique à Cuba, Paul Hare, disait que c'était peut-être le système économique le plus complexe au monde. Deux monnaies, une monnaie, le CUP, c'est UP, le peso cubain, et c'est dans cette monnaie que les salariés du public, des entreprises d'État, sont rémunérés. Et une autre monnaie qui est plus ou moins pratiquement égale à l'euro ou au dollar, qui est le CUC, C-U-C, et qui sert de monnaie dans les transactions commerciales à l'extérieur, pour les investisseurs étrangers, etc., avec des taux de change en plus différenciés selon différentes activités économiques. Bref, le problème, un des problèmes les plus graves, c'est le fait non seulement que les salariés du secteur privé gagnent beaucoup plus que ceux du secteur public, on peut ensuite discuter de leurs conditions de travail, qui sont très difficiles. Mais non seulement ils gagnent beaucoup plus que ceux du secteur public, mais ils ont accès, grâce à ces rémunérations dans cette monnaie qui est la monnaie forte, à des biens qui sont inaccessibles désormais pour les salariés du public. Or, les salariés du public, c'est quand même 70% de la population active. C'était beaucoup plus auparavant. Et ces salariés du public, maintenant, tendent à fuir le secteur public pour chercher à aller dans le secteur privé, pour y avoir des rémunérations supérieures. Mais pour les jeunes en particulier, il y a ce que les Cubains appellent une pyramide inversée, c'est-à-dire le fait que, d'une part, ils ne trouvent pas d'emploi correspondant à leurs qualifications, pour des raisons qu'il serait un peu compliqué d'expliquer maintenant, et d'autre part, ils cherchent à avoir justement un travail, un emploi qui correspondent pas forcément à cette qualification, mais qui leur rapporte davantage. Et quand ils ne peuvent pas, ils partent. Donc on a à la fois, entre guillemets, une fuite des cerveaux jeunes, des cerveaux les plus qualifiés, et on a aussi le fait que ceux qui sont les plus qualifiés dans le secteur public, bien maintenant, quittent parfois leur emploi, je pense là à des professeurs, à des ingénieurs, à des médecins, etc., pour occuper des emplois subalternes, beaucoup moins qualifiés, mais qui leur permettent de gagner plus. Et ça, c'est peut-être un des éléments les plus graves qui minent la société cubaine actuellement, d'autant plus que les revenus, alors on pourrait, pour terminer, on pourrait se demander d'où viennent ces revenus en CUC, autrement dit, d'où viennent ces revenus qui sont des revenus en dollars ou en euros. J'ai oublié de mentionner que 1 dollar ou 1 euro égale un CUC, si vous voulez, égale 24 pesos. Ce qui vous donne un peu une idée de la différence de taux de change qui existe et qui pénalise encore plus les salariés du secteur public, parce que les prix tendent de plus en plus à s'aligner sur le CUC et pas sur le peso. En résumé, pour terminer, les salariés du secteur public sont actuellement réellement pénalisés et dans une situation qui ne peut pas durer longtemps. Alors le discours officiel, c'est de dire mais il faut que l'économie soit plus productive, plus efficace, d'où les réformes économiques en cours, pour que précisément on puisse augmenter les salaires. On ne peut pas augmenter les salaires tant que l'économie va aussi mal. Un discours qui est contesté parmi les économistes cubains.
À écouter Jeannette Abel, Jérôme Leleu, on a le sentiment que les inégalités, à la suite de l'arrivée d'une partie du secteur privé, en tout cas dans l'économie cubaine, on a l'impression que ces inégalités se sont considérablement creusées ces dernières années. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, elles ont augmenté. On n'a pas de statistiques officielles sur les inégalités, sur la pauvreté, même s'il y a des études partielles qui sont réalisées. Mais elles ont augmenté pas seulement depuis 2008 et les réformes de l'ère Raúl Castro, mais déjà depuis les années 90. Hein, on a eu déjà un secteur privé qui s'est développé à ce moment-là. Et effectivement, ces inégalités ont tendance à augmenter en raison également donc des, effectivement, Jeannette Abel l'a rappelé, il y a le peso cubain et le peso convertible. Et effectivement, une bonne partie des revenus en peso convertible proviennent finalement des transferts d'argent depuis l'étranger, hein, de la famille ou des amis des Cubains qui se sont exilés à l'étranger.
Et il y en a beaucoup, hein, on parle d'1 400 000 Cubains, ouais. 10% de la population de l'île à peu près.
Oui, exactement, c'est ça. On a aussi, alors il y a une certaine amélioration par rapport à ce que disait Jeannette Abel, même si elle est lente et qu'elle n'est pas suffisante, c'est qu'il y a eu une réforme des salaires aussi il y a quelques années pour le secteur public et qu'il y a eu un déplafonnement de l'échelle des salaires. Et donc on a des salaires aujourd'hui dans certains secteurs des entreprises d'État qui sont également plus élevés. Hein. Et donc on a par exemple le secteur des biotechnologies où on peut avoir des salaires moyens de 2000, d'environ 2000 CUP, ou dans certaines centrales sucrières également des salaires moyens de 1500-2000 CUP, alors que le salaire moyen général est d'environ 740 CUP. Mmh. Donc on a même au sein de la sphère publique une augmentation des inégalités, parce qu'effectivement dans les secteurs productifs comme les biotechnologies ou le secteur sucrier, on peut augmenter les salaires si les rendements finalement sont suffisants, mais dans d'autres secteurs, et c'est eux qui sont le plus pénalisés dans le secteur public, ce sont les secteurs administratifs, ce sont les salariés du ministère de l'Éducation nationale, les salariés de l'administration générale, les salariés de la culture, etc. Ce sont surtout eux qui n'ont pas vu leur salaire augmenter ces dernières années, contrairement à d'autres... À d'autres secteurs, d'autres ministères.
Avant de passer à la Constitution, avant de parler de ce texte et des projets qu'il a en lui, qu'il porte en lui, un dernier mot, Olivier Dabène, sur la situation actuelle à Cuba. À vous écouter, on a l'impression que la société cubaine est totalement fracturée par ces inégalités.
Absolument, oui. C'est, je pense qu'on peut, le présenter de cette façon-là. Les chiffres que moi j'ai recueillis auprès d'économistes cubains font état d'un écart de salaire de 1 à 4 dans les années 80 et de 1 à 30 aujourd'hui, pour vous donner une idée des évolutions. À l'époque, dans les années 80, cette différence de 1 à 4 était due au niveau de qualification. Les gens étaient salariés du public et le niveau de qualification faisait le niveau de salaire. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Les revenus les plus élevés ne relèvent plus de la fonction publique. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont ceux qui vont gagner de l'argent en dollars. Ce sont des gens qui reçoivent des remises, hein, des transferts monétaires depuis principalement la Floride, depuis les États-Unis, ou des gens qui ont des affaires, qui peuvent, disons, louer des chambres sur Airbnb, qui ouvrent des restaurants, et toutes les activités privées qui se développent et qui ont eu pour effet de creuser les inégalités. D'où le dilemme du régime cubain, comment faire en sorte qu'on puisse développer les activités privées pour stimuler la croissance économique sans creuser les inégalités ou sans les creuser dans des proportions qui deviennent complètement incompatibles avec ce qu'on entend par régime socialiste. Donc c'est la problématique actuelle qui est discutée dans le cadre de cette réforme constitutionnelle, mais rien n'est simple en la matière parce que on ne peut pas, si vous voulez, à la fois obtenir de la croissance économique et ne pas creuser les inégalités aujourd'hui à Cuba. L'unification monétaire doit être considérée comme une opération visant à réduire les inégalités, mais là encore c'est pas simple. Si on fait comme en Allemagne de l'Est, il y a quand même un précédent, hein, l'Allemagne de l'Est. On a favorisé en Allemagne de l'Est l'épargne des gens qui habitaient dans l'ancienne RDA. Il est question de le faire, c'est-à-dire d'une certaine façon réévaluer le peso cubain et dévaluer le peso convertible, mais c'est très délicat et c'est la raison pour laquelle cette réforme est sans arrêt retardée. Raoul Castro l'avait annoncé il y a déjà quelques années et on voit la bureaucratie freiner parce qu'ils savent pas, la vérité c'est qu'ils savent pas comment s'y prendre pour éviter de creuser davantage encore les inégalités. C'est vraiment le problème de Cuba aujourd'hui.
Le dilemme, hein, comme vous le disiez il y a quelques instants, Olivier Dabène, on va en parler en évoquant maintenant la Constitution, le projet de Constitution, avec deux volets importants dans ce texte, 224 articles essentiellement économiques et politiques. On va d'abord parler de l'économie. Quelques exemples de mesures, ou en tout cas de changements dans ce texte par rapport à celui de 1976. La reconnaissance du rôle des marchés dans l'économie, la reconnaissance de la propriété privée, et des investissements étrangers. Sur ce point, tel que le texte existe aujourd'hui, Jeannette Abel, est-ce qu'il représente un tournant, un virage libéral pour Cuba ?
Un tournant, oui. Un virage libéral, je ne crois pas que ce soit la meilleure des définitions, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, la référence qui sert, qui permet de comprendre ce qui est en train de se passer à Cuba et qui représente un vrai tournant. Hein. Je pense même que l'on peut parler de saut qualitatif. En tous les cas, la référence, c'est le modèle, entre guillemets, vietnamien, c'est-à-dire une libéralisation économique très importante. Hein. La reconnaissance de la propriété privée, c'est une façon de constitutionnaliser la propriété privée, la reconnaissance de la propriété privée dans la Constitution. Les investissements étrangers, un rôle attribué au marché beaucoup plus important, l'efficience économique dans les entreprises, etc., etc. Bien, tout ça représente des transformations économiques, des réformes économiques très, très substantielles, structurelles, maintenant, mais avec le maintien d'un pouvoir fort, d'un parti unique, donc d'un pouvoir qui garde un caractère autoritaire, incontestablement, ce que l'on peut voir à travers les restrictions, même la censure qui est apportée à certaines manifestations politiques ou culturelles. Donc, la référence, c'est celle-là, et c'est celle qui permet, je ne dis pas la Chine, on pourrait dire la Chine, mais enfin, les proportions sont tellement énormes.
Oui, les références ne sont pas les mêmes. Et il y a déjà d'énormes différences entre Cuba et le Vietnam. 11 millions d'habitants à Cuba, 100 millions d'habitants au Vietnam.
Tout à fait. Donc, plus de 100 millions. Donc, on ne peut pas... Mais malgré tout, oui, il y a, une philosophie, si l'on veut, qui consiste à dire que le socialisme, eh bien, ce sont les entreprises d'État, c'est le secteur public, c'est un pouvoir fort, garantit un pouvoir fort qui s'appuie sur un parti unique. Bon, dans un pays pauvre, c'est vrai, un pays soumis à des sanctions économiques très, très grandes et depuis très longtemps, mais avec une libéralisation économique. Et c'est une vraie contradiction. Combien de temps elle peut durer ? En tout cas, elle dure maintenant depuis longtemps en Chine, depuis 1978, depuis 1986 au Vietnam. Combien de temps pouvez-vous avoir un pouvoir politique face à une société qui est fracturée, effectivement, une société qui est très différenciée, fragmentée, et un pouvoir politique qui se veut homogène. Et qui se veut homogène parce qu'il veut contrôler justement ces différenciations sociales. C'est évidemment un équilibre très difficile. Est-ce qu'il est durable, pas durable, dans un pays aussi petit que Cuba ? C'est toute la question qui est posée et qui pose le problème de l'avenir de Cuba et de ce qu'a été sa révolution.
On sent que ce projet de constitution est un moment majeur, un texte majeur dans l'histoire de Cuba. En tout cas, ça arrive à un moment très important dans l'histoire de Cuba. Jérôme Leleu, est-ce que le pouvoir, avec ce texte, a fait un choix pour l'avenir économique et politique de l'île ?
Oui, sûrement. Et ce choix, il existe. Enfin, il est dans les têtes de certains dirigeants cubains, enfin, même s'il y a Il n'y a pas une unanimité forcément au sein du Parti communiste, mais il est dans les têtes depuis plusieurs années. Ce qu'il y a, en tout cas, les points économiques de cette constitution, que ce soit la reconnaissance du marché, de la propriété privée et l'importance donnée aux investissements directs étrangers, d'une part, ces trois points s'adaptent à la réalité actuelle de Cuba, où les investissements directs étrangers sont présents et sont en augmentation depuis la loi 2014, où la propriété privée et l'entrepreneuriat privé existent depuis, a très fortement augmenté depuis 2010, mais existent aussi sans discontinuer depuis 1978, et où finalement le marché également fonctionne, en tout cas dans certains espaces, et dans des espaces de plus en plus importants depuis 2010. Mais effectivement, cette constitution peut ouvrir... jeter les bases, en tout cas, de nouvelles réformes, de nouvelles lois, bien qu'il ne faille pas surestimer, non plus surinterpréter des rapports juridiques, hein, et en particulier un texte constitutionnel qui reste très général, finalement. Les deux choses qui pourraient être avancées par les nouvelles lois qui pourraient être avancées par le gouvernement cubain à court ou à moyen terme, c'est une reconnaissance juridique de l'entreprise privée. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les travailleurs à compte propre ont une personnalité physique et non pas une personnalité juridique. Donc on pourrait avoir de vraies entreprises privées.
Ce qui n'est pas le cas encore actuellement dans la Constitution, enfin dans le projet de Constitution.
Non, exactement. Même si déjà un texte en 2016, le texte qui s'appelait « Conceptualisation du modèle économique et social », parlait d'entreprises privées. Donc c'est une idée qui est dans la tête, dans la tête des dirigeants depuis plusieurs années. Et on pourrait aussi avoir une reconnaissance. Si on reconnaît l'entreprise privée, on reconnaît également le salariat privé. Et ça, c'est quelque chose qui juridiquement pourrait être important parce qu'on reconnaît finalement une appropriation de plus-value une appropriation privée de plus-value. Et donc, effectivement, là, il y a une contradiction avec la construction du socialisme prônée par le pouvoir. Même si, dans les faits, aujourd'hui, le salariat privé existe au sein du travail à compte propre, parce qu'un travailleur à compte propre peut embaucher d'autres travailleurs à compte propre qu'on appelle empleados contratados, des employés.
C'est l'équivalent en France du micro-entrepreneur ou
voilà,
l'entrepreneur
exactement,
en quelque
mais
sorte.
Mais ces salariés qui ne sont pas des salariés juridiquement sont considérés comme des auto-entrepreneurs, mais ils sont salariés de fait finalement.
Olivier Dabenne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Leleu, donc ce projet de constitution est un choix, enfin, et la manifestation d'un choix fait par le pouvoir cubain, vous qui parliez de dilemme il y a encore quelques minutes?
Oui, je suis assez d'accord, mais je relativiserai toutefois l'importance d'un texte constitutionnel dans un régime autoritaire de façon assez générale, et je dirais que dans ce cas, le processus est peut-être plus important que le résultat final. Le processus, ça va être les 3 mois qui viennent, de multiples débats, délibérations. On va voir s'ils peuvent s'exprimer des opinions divergentes. On va avoir du mal à le voir, parce qu'évidemment, il n'y aura pas beaucoup d'articles de presse indépendantes pour nous faire part des débats qui auront lieu. Mais il y a quand même des précédents dans l'histoire cubaine, et le dernier en date, c'était le processus en 2007-2008, les grandes lignes d'actualisation du modèle. Qui ont largement échoué au plan économique, on l'a dit, mais qui avaient donné lieu, il y a une dizaine d'années, à de multiples débats où des opinions très divergentes s'étaient exprimées. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Et je pense, par exemple, au mariage pour tous. On a beaucoup parlé ces derniers jours comme faisant partie de ce virage libéral, c'est-à-dire plus de liberté publique, du mariage pour tous qui serait acté dans la nouvelle constitution. Je pense qu'on va voir s'activer des lobbies religieux, même à Cuba, et il n'est pas du tout sûr que dans le texte final, on ait effectivement la reconnaissance d'un mariage entre deux personnes sans référence au sexe. Maintenant, si on veut parler du contenu, soyons prudents, donc attendons le résultat de ces discussions. Enfin, si par virage libéral, on entend plus de liberté publique, je pense que là, on va être déçus, à part cette avancée timide sur le plan du mariage. Pour le reste, il n'y a rien sur le journalisme, la presse indépendante, sur la liberté d'expression, de conscience, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, pas vraiment un virage vers davantage de liberté. Si par virage libéral, on regarde plutôt les dimensions économiques qu'on a déjà évoquées, effectivement, ce nouveau texte ne fait que acter d'une certaine façon une évolution qui est notable, c'est-à-dire vers une place de plus en plus grande des activités privées dans le pays, mais qui est une importance qui n'est pas pleinement assumée. C'est-à-dire, il y a cette référence à la voix vietnamienne. Et d'ailleurs, au mois de mars, il y a eu une visite impressionnante d'une délégation emmenée par le premier secrétaire du Parti communiste vietnamien à La Havane au moment où Diaz-Canel était élu. C'était quand même tout un symbole. Ils sont venus à, je sais pas, 150 personnes peut-être. C'était absolument incroyable. Donc effectivement, le Vietnam est là, derrière, représente une voix, mais les Cubains ne veulent pas qualifier leur régime d'économie de marché socialiste. Ils disent « nous sommes une économie socialiste, point ». Et on ne veut pas du marché. Donc ils n'assument pas encore complètement cette évolution. Alors de ce point de vue, le texte constitutionnel est intéressant, mais attention, je reviens à ce que je disais au début, n'accordons pas trop d'importance à un texte constitutionnel. Il n'y a pas de garantie constitutionnelle, il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas un organe de contrôle de constitutionnalité indépendant, par exemple à Cuba. Donc la référence à la Constitution, elle sert le pouvoir quand le pouvoir veut faire preuve d'autorité, elle ne sert pas le citoyen quand il veut s'opposer aux abus d'autorité du pouvoir, comme c'est le cas dans nos régimes libéraux. Quand même, une chose, pour la première fois, ce régime définit l'État comme un État de droit. Ça, c'est quand même une avancée
socialiste
pour Cuba. Un État de droit socialiste.
On va y venir, oui. On va parler de politique dans quelques instants. Un point, puisque vous l'avez évoqué, Olivier Dabenne, le mariage. Dans la Constitution 1976, il est écrit que le mariage a lieu entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, dans le projet de texte de nouvelle constitution, eh bien cette référence au sexe a disparu. On verra, ce sera donc l'un des enjeux du débat qui a commencé hier. On verra ce que ce débat et cette consultation donnera.
France Culture, du grain à moudre d'été, Antoine Genton.
Je suis comme beaucoup de Cubains qui font partie d'une génération née dans les années 60. Nous apprécions énormément l'enseignement et toutes les possibilités que la révolution cubaine nous a apportées.
Miguel Díaz-Canel, le président cubain, c'est lui que vous venez d'entendre, qui rend hommage à l'héritage et à la révolution cubaine. Pas question pour lui de remettre en cause les fondations, les fondements de l'État cubain. C'est ce qu'il disait en avril dernier au moment de son élection à la tête de Cuba. Jeannette Abel, est-ce qu'il a tenu parole, Miguel Díaz-Canel, alors que la nouvelle constitution est donc encore depuis hier au centre d'un débat public et populaire? Est-ce que ces bases, ces fondations vont rester intactes?
Écoutez, c'est un peu tôt pour le dire. Il vient d'être élu pour 3 ans d'une certaine façon et dans une conjoncture dont on n'a pas souligné assez l'originalité par rapport à la tradition historique à Cuba, parce que désormais, dans les changements politiques et institutionnels, qui sont certes pas très importants, mais qui ont quand même une vraie portée, Díaz-Canel est président de la République. Mais à la différence de Fidel Castro et de Raúl Castro, il ne sera pas Premier ministre. Et d'autre part, le président de l'Assemblée nationale sera, effectivement, on va voir s'il change, mais sera élu par la dite Assemblée nationale. Mais il y a eu un début dans ce projet de constitution de déconcentration des pouvoirs. C'est un début limité, bien sûr, mais qui va quand même changer les choses. Or, Díaz-Canel, le nouveau président, n'est pas premier secrétaire du Parti communiste cubain non plus, alors que ses prédécesseurs, Fidel Castro et Raúl Castro, étaient à la fois premier secrétaire du Parti communiste, président de la République, président du Conseil des ministres, commandant en chef des forces armées pour Fidel Castro. Díaz-Canel, il est président de la République. C'est un poste très important, mais de surcroît, le prochain congrès du Parti communiste a lieu en 2021. D'après Raúl Castro, Díaz-Canel devrait à ce moment-là devenir également premier secrétaire du Parti communiste, donc lui succéder. Mais d'ici là, on va voir. On peut considérer d'une certaine façon que ces 3 années sont une forme de test. Mais je voulais juste apporter un correctif, enfin si ce n'est un correctif, en tous les cas, un commentaire un peu différent sur les salariés du secteur privé. Parce que les salariés du secteur privé, le rapporteur du projet de constitution, Romero Acosta, qui est le secrétaire du Conseil d'État, pas n'importe qui a rapporté sur ce projet, a désormais déclaré qu'il fallait différencier à la fois les travailleurs à compte propre de leurs employeurs. Et ils vont inscrire, en tout cas le projet, est d'inscrire ça dans la Constitution. Ça, c'est un tournant, c'est un changement très important, parce que ça veut dire que ça pose une vraie question maintenant. Comment on va les organiser, ces travailleurs? Est-ce qu'ils vont être membres du syndicat unique? Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de former leur propre syndicat? Est-ce que les employeurs, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les employeurs, ils devraient, on l'imagine, en tous les cas, à un moment donné, réclamer le droit d'être organisés, de s'organiser eux-mêmes, d'être représentés en tant qu'employeurs, pas en tant que travailleurs. Et il y a une confusion qui est maintenue. C'est pas une confusion, en réalité, c'est le produit d'une gêne, entre ceux employeurs et employés, et y compris, qui a fait débat au sein de la CTC, la centrale syndicale unique. Une deuxième remarque quand même, parce qu'elle a un sens politique très important. Désormais, dans le débat sur la Constitution, les Cubains de l'étranger, notamment les Cubano-Américains, ceux qui vivent aux États-Unis, la diaspora, pourra participer à ces débats complètement, dans toutes leurs dimensions, sur Internet. Alors, bien sûr, ils ne vont pas voter. Mais c'est un changement majeur. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un certain nombre d'années, tout cela était des gusanos, des vers de terre, et maintenant on les considère comme des citoyens qui peuvent améliorer, participer comme ils le voudront au débat sur la Constitution. Ça aussi, ça a une seule signification, enfin ça a une principale signification politique, c'est le poids de la diaspora maintenant, très important, et un poids auquel le gouvernement cubain...
Poids économique, notamment
bien sûr, un poids économique et financier colossal, surtout avec la crise du Venezuela, éventuellement, mais y compris celle du Brésil. Sur quoi peut-on compter, si ce n'est sur l'apport financier que cette diaspora peut apporter?
Je rappelle, 1 400 000 Cubains, de membres de cette diaspora, des personnes réparties dans 120 pays. 1 400 000, c'est 10% de la population de l'île. Olivier Dabène, est-ce que cette participation au débat de ces émigrés, de ces membres de la diaspora, vous paraît inédit dans l'histoire récente de Cuba, en tout cas dans l'histoire de la révolution cubaine?
Complètement, oui. C'est très intéressant à observer. Je dirais que toute la problématique actuelle, ça va être de regarder effectivement les prises de parole, non seulement de la diaspora, mais aussi des riches, parce qu'il y a des riches à Cuba, il y a des riches à La Havane, il y a une nouvelle, si vous voulez, classe de ultra-riches même, comme ils les appellent parfois. Et donc comment faire en sorte d'éviter que ces ultra-riches n'acquièrent un poids politique? En fait, c'est exactement ça aussi que craint le pouvoir, c'est-à-dire le creusement des inégalités. C'est un drame, si vous voulez, économique et social, mais c'est aussi un vrai dilemme politique. C'est-à-dire comment empêcher ces gens finalement de faire du lobbying, de défendre des idées qui vont dans le sens de davantage d'initiatives privées, etc. Donc, quel va être au cours des trois prochains mois, dans cette vaste entreprise de délibération, le poids politique de la diaspora et des riches de La Havane? Je pense qu'on va avoir des indications. Enfin, ça va être pas, encore une fois, pas être très facile de les avoir, mais il existe quand même tout un tas de sources, des blogs, etc., de gens qui vont être dans les débats et qui vont pouvoir nous apporter des précisions sur le rôle politique de ces nouveaux riches.
Jérôme Lalleux, est-ce qu'on sait mesurer aujourd'hui le poids de cette diaspora et de ces riches dont parle Olivier Labène sur le gouvernement cubain et sur le cours des affaires cubaines?
Je pense que la diaspora a surtout un rôle économique dans le financement du secteur privé, ces fameux travailleurs à compte propre qui se financent essentiellement pour créer leur entreprise, pour investir, pour développer leur entreprise grâce aux revenus de l'étranger et un peu sur fonds propres, mais les remessas sont la partie la plus importante de leur financement, malgré que l'État cubain est ouvert le crédit bancaire à ces fameux travailleurs à compte propre en 2013, mais très peu finalement de travailleurs à compte propre se voient octroyer des crédits. Donc il y a une certaine concurrence finalement entre l'État cubain et la diaspora dans la manière finalement d'influencer le développement du secteur privé. Ça, c'est quelque chose de fondamental.
Je reviens à l'économie, donc au secteur privé, puisque vous l'évoquez. On a du mal à voir comment le secteur privé ne pourrait pas ne pas l'emporter dans les années qui viennent, même si aujourd'hui il représente une minorité dans le système économique cubain, Jeannette Abel.
Ah non, mais là, il y a des blocages, des dispositions juridiques qui restent importantes, qui définissent les activités privées, même en ce qui concerne les entreprises étrangères. Vous pouvez avoir des entreprises étrangères à 100%, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous pouvez avoir des entreprises mixtes, etc. Mais tout cela doit être est contrôlé par les instances étatiques correspondantes, que ce soit celle du ministère de l'économie, des investissements étrangers, etc. Et d'autre part, dans la Constitution, c'est l'objet de beaucoup de débats, justement, la propriété privée est considéré comme devant être limité, ou du moins la concentration de capital est considérée comme devant être limitée, et ça doit être inscrit dans la Constitution, en tout cas c'est dans l'avant-projet, de la même façon que les moyens, ce qu'on appelle les moyens fondamentaux, les secteurs stratégiques de l'économie, doivent rester sous le contrôle de l'État. Alors après, une constitution, c'est une constitution, où Olivier Labène rappelait le fait qu'on puisse avoir beaucoup de marge entre le texte et la pratique, mais malgré tout, pour le moment, comme d'ailleurs au Vietnam, ça reste la philosophie du régime, et c'est d'ailleurs un des points les plus sensibles dans le débat avec la population, il y a eu deux propositions dans les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, mais qui reflétaient quand même, qui répercutaient des débats antérieurs, sur la concentration, le fait d'avoir à limiter de manière impérative la concentration du capital. Et il y a eu une autre proposition lors d'un débat organisé par la revue Temas, qui est une revue cubaine très intéressante, qui fait des réunions publiques avec un débat tous les derniers jeudis du mois. Quelqu'un a proposé que la concentration de la richesse soit aussi limité. Et là, il y a eu des débats, de gros, gros débats. Et quant à l'Assemblée, ça a été répercuté dans la presse, la proposition de limiter la concentration de la richesse, donc pas du capital, a été faite. La réponse des rapporteurs et des intervenants juridiques, des dirigeants compétents sur le plan juridique, a été négative, en expliquant qu'il n'était pas possible de limiter la concentration de la richesse. Et je pense qu'une des explications, c'est effectivement le fait que des flux financiers importants et clandestins, souvent, arrivent de la diaspora et que d'abord les contrôler serait peut-être sûrement difficile, mais en plus, ils sont utiles. Il y a une grande polémique parmi les économistes cubains sur ce sujet.
Il y a donc encore des freins, on l'a bien compris, au développement du secteur privé à Cuba, Jeannette Abel. On va passer maintenant au volet politique de ce texte. Vous l'avez déjà évoqué dans vos différentes interventions, notamment vous, Jeannette Abel, quand vous disiez qu'il y avait une limitation des pouvoirs présidentiels inscrits dans ce projet de constitution, une limitation du nombre de mandats, notamment 2 mandats de 5 ans maximum. Autre point abordé, l'abandon de la référence à une société communiste, l'affirmation du caractère socialiste du système politique, un État socialiste de droit, ça a été mentionné aussi il y a quelques instants. Il est question aussi de renforcer la décentralisation à Cuba, mais, et ça aussi, vous l'avez souligné, le maintien du parti unique, pas de remise en cause du caractère socialiste du système politique. Compte tenu de ces nouveautés et de ces confirmations aussi, est-ce que quand même les Cubains vont, avec ce texte, Olivier Dabène, vers un peu plus de démocratie ?
Parmi tous les aspects que vous venez d'évoquer, j'en retiendrai un qui me semble vraiment intéressant, c'est justement le niveau local.
La décentralisation.
La décentralisation, c'est une quête ancienne de la révolution cubaine qui n'a jamais vraiment été une réussite. Pas tellement pour des raisons d'ailleurs politiques, mais plutôt pour des raisons économiques, c'est-à-dire vous pouvez décentraliser, vous pouvez confier aux villes tout un tas de prérogatives. Si vous ne leur donnez pas les moyens de satisfaire les demandes de la population, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais pour la première fois, on voit un texte constitutionnel qui définit le municipe, la ville, comme étant l'unité politique de base, c'est-à-dire là où finalement les problèmes doivent se régler, mais là aussi où les gens vont participer. Et ça, c'est un aspect qui n'est pas toujours très bien connu ou commenté de la révolution cubaine, c'est-à-dire qu'il y a une vraie vie démocratique à Cuba, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais elle se déroule dans les quartiers, elle se déroule même à une unité minuscule où les gens se connaissent à l'échelle d'une rue, où il y a des gens qui se lèvent la nuit pour aller aider le voisin à régler des problèmes, où il y a de la concertation, de la discussion, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire c'est toujours une discussion qui porte sur des problèmes collectifs, mais à une échelle micro-locale. C'est très intéressant, et le texte constitutionnel, d'une certaine façon, consacre cette importance de la démocratie à l'échelle micro-locale, mais ne va pas plus loin. C'est-à-dire il n'y a pas d'ensuite de démocratie représentative à des échelons qui vont vers, disons, le pouvoir national. Mais il y a quand même un effort pour essayer. Alors, est-ce que ces efforts politiques, institutionnels, seront accompagnés de transferts de ressources au niveau local ? C'est évidemment tout l'enjeu, parce que sinon, encore une fois, tous les témoignages qu'on a des discussions à l'échelle locale, c'est toujours que, compañero, on n'a pas d'argent. Et quand on va frapper à la porte des ministères ou des assemblées à l'échelle provinciale ou nationale, on se voit opposer une fin de non-recevoir parce que il n'y a pas de moyens. Donc on en revient toujours à la dimension économique à Cuba, qui est un pays pauvre, qui est un pays sans beaucoup de moyens et qui a la plus grande difficulté à, si vous voulez, apporter des solutions aux problèmes concrets de la vie quotidienne des citoyens.
Est-ce que le débat qui a commencé hier et qui va continuer pendant 3 mois jusqu'au 15 novembre donc est l'expression ou le début de l'expression de cette vie des démocratiques qui pourrait être renforcée au niveau local, hein, puisque je le rappelle, des débats, des rencontres vont être organisées dans 130 000 points sur l'île au cours des 3 prochains mois, Jeannette Abel.
Ah oui, non, mais ça, c'est un changement qui est insuffisamment souligné. Il y a maintenant un débat, des débats, une quantité de débats sur de très nombreux blogs, parce que Internet a commencé à pénétrer à Cuba, insuffisamment, hein, parce qu'il n'y a même pas suffisamment de téléphones dans les provinces, mais en tous les cas, dans les cercles jeunes, dans les cercles intellectuels, chez les artistes, chez les cadres politiques, etc., vous avez maintenant une quantité de discussions, d'échanges, comme je n'en ai jamais vu auparavant, et une liberté de parole. On sent que Fidel Castro n'est plus là, Raoul Castro quitte la présidence, et puis ce sont des nouvelles générations, et des nouvelles générations qui sont au contact des Latino-Américains, qui sont au contact des touristes américains, qui sont, il y a presque 4 millions de touristes maintenant à Cuba, donc cet Internet qui était presque inexistant et qui est encore quand même limité dans la population, mais avec des hotspots qu'il y a maintenant dans de très nombreux endroits. Et puis, il y a une espèce d'intranet national qui fait que tout le monde arrive avec des clés USB, des textes qui circulent partout. Par moments, je me demande même comment ils font pour avoir autant de connaissances. Toujours est-il qu'il y a des débats très contradictoires avec des courants. Vous avez maintenant des courants de pensée identifiés à Cuba, que ce soit des courants de pensée démocrates chrétiens, libéraux, sociodémocrates, autogestionnaires, etc., qui sont parfaitement, que vous pouvez authentifier grâce à ces blogs et un discours critique que je n'avais jamais vu auparavant. Et là aussi, la contradiction et le contraste qui va être difficile à gérer, je pense, pour la nouvelle génération qui arrive au pouvoir, hein, parce que c'est une nouvelle génération, c'est qu'entre une presse qui reste quand même terriblement figé, terriblement langue de bois, et puis cette floraison, cette explosion de mails et de débats, il y a une contradiction maintenant qui affleure et qui est perçue de plus en plus, et qui suscite beaucoup de protestations, y compris des protestations d'un certain nombre d'officiels maintenant. Donc on sent qu'il y a une pression de plus en plus grande, si vous voulez, pour plus, au moins plus de liberté d'expression, plus de liberté d'expression pour les différentes sensibilités, plus de demandes d'organisation. Et ça, à un moment donné, je pense quand même qu'il va falloir que la nouvelle direction, l'âge du lest, ils le reconnaissent.
Rapidement, Jérôme Leleu, vous qui connaissez bien Cuba également, comment vous percevez l'organisation de ce débat et comment vous pensez que la parole à Cuba va s'exprimer autour de ce projet de nouvelle constitution ?
Il est vrai que les différents observateurs ont souvent mis en évidence que ces grands moments de consultation populaire qu'il y a eu lors des réformes partielles constitutionnelles de 1991, du début des années 2000, ou pour les lineamientos en 2009-2010, sont les moments où finalement la démocratie est la plus vive à Cuba, à ce moment-là. Après, on reste dans des doléances hein, finalement effectuées par la population cubaine auprès des instances. Et il y a un article de Granma, hein, le journal officiel du Parti communiste cubain de la semaine dernière, qui explique finalement comment vont se passer les processus de consultation lors des réunions. Et dans l'article, il est bien dit qu'on n'est pas là pour débattre, on n'est pas là pour voter pour ou contre, on est là pour exprimer des idées, des accords, des désaccords, etc. Donc on est plus effectivement dans des doléances, et ça se passe généralement souvent comme ça. Même si je suis totalement d'accord avec Jeannette Abel, qu'il y a vraiment une dynamisation, on va dire, de la vie démocratique à Cuba depuis plusieurs années. Et je pense que les discussions seront assez vives et assez structurantes, je pense, lors de cette consultation. Il y a déjà des comptes rendus, hein, des premières réunions qui sont passées hier. Et les points de débat achoppent justement, tout à l'heure Olivier Dabel en a parlé, sur le mariage, la possibilité d'un mariage homosexuel. Et là, effectivement, même si je pense qu'une partie de la jeunesse est un peu plus évoluée sur le sujet, si je peux m'exprimer ainsi, on pourrait avoir quand même des inquiétudes et des réticences d'une certaine partie de la population.
Il nous reste une minute, Olivier Dabel. Est-ce que le texte, cette nouvelle constitution, accompagnée donc d'un débat, est-ce que ce texte répond au moins partiellement aux aspirations des nouvelles générations et des plus jeunes à Cuba ?
C'est difficile à dire. Moi, je pense que dans ces grandes lignes, certainement pas, parce que s'il s'agit d'évoquer la nature du régime, ça reste un régime autoritaire. Et d'un autre côté, s'il s'agit de répondre à des demandes très concrètes d'amélioration de la vie quotidienne, un texte constitutionnel n'est pas la manière la plus appropriée d'offrir des solutions concrètes. Il faut toujours qu'il y ait ensuite des lois qui viennent préciser certains points. Et à Cuba, l'expérience montre que l'activité législative, elle est extrêmement modeste. L'Assemblée se réunit deux fois par an, deux jours. Le reste, ce sont des décrets-lois, c'est le gouvernement. Donc je pense que si la jeunesse attend un changement de régime, elle n'est pas satisfaite. Si elle attend des améliorations concrètes de sa vie quotidienne, elle n'est pas satisfaite non plus.
Merci Olivier Dabel, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Jérôme Leleu, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Jeannette Abel, politologue, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris 3. Merci donc encore une fois à vous Olivier Dabel, professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Paris, membre du CERI, le Centre de Recherches Internationales. Et merci à nos amis de France Bleu Pays Basque à Bayonne qui vous ont permis d'être en direct ce soir avec nous. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Leïla Saïdi, Coppelia Ménardi, Isolt Sicard, Imen Mélaz et Marine Lerouge. Réalisation de ce numéro, Alexandra Longuet, prise de son, Pierrick Monsigny. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. À demain, 18h15, nous parlerons religion et économie avec cette question, Dieu se cache-t-il dans les marchés ? Bonne soirée.